Europe 1.
Combien les femmes nous surpassent en qualité, je vais le faire voir. D'abord, toutes sans exception lavent les laines dans l'eau chaude à la façon antique et tu n'en verras pas une faire de nouveaux essais. Elles s'assoient pour faire griller les morceaux comme autrefois. Elles pétrissent les gâteaux comme autrefois. Elles maltraitent leur mari comme autrefois. Elles ont des amants comme autrefois. Elles aiment le vin comme autrefois. Elles aiment faire l'amour comme autrefois. Laissons-les gouverner, tout simplement. Cette tirade, haute en couleurs, n'est pas extraite d'une pièce de Feydeau ou de Courteline, mais d'une comédie satirique d'Aristophane, l'Assemblée des femmes. Représentée en 390 avant Jésus-Christ, elle met en scène une prise de pouvoir par les femmes à Athènes. Si la verve d'Aristophane et son humour au rasoir ont fait sa gloire, son œuvre est aussi une mine d'or pour tous ceux qui intéressent la vie quotidienne dans la Grèce classique. Et finalement, nous devons à la misogynie du célèbre dramaturge de connaître toutes sortes de détails croustillants sur la condition des femmes de son époque. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la place des femmes dans la Grèce antique, de tenter de comprendre le paradoxe d'un monde où l'on vénérait des divinités féminines, mais où la femme était plus éloignée de la citoyenneté qu'un étranger ou un esclave. Aristophane n'est pas le seul à avoir décrit la condition des femmes de son époque. Les historiens et philosophes de l'Antiquité, Hérodote, Xénophon, Platon, ont largement évoqué la question féminine dans leurs œuvres. À ceci près que leurs textes abordent surtout les lois et les coutumes auxquelles les femmes sont soumises. Or, chacun sait qu'il existe une grande différence entre les règlements et leur application. C'est sur ce point que l'apport des auteurs dramatiques nous est infiniment précieux, car il nous donne à découvrir ce pittoresque propre à l'anecdote. Les tableaux qu'ils dépeignent sont frappés du sceau d'authenticité. Car parler de la condition des femmes en des temps si reculés nécessite un luxe de précaution pour ne pas tomber dans la caricature. Depuis plusieurs décennies, sociologues, philosophes, psychanalystes, historiens, anthropologues bataillent pour essayer de comprendre pourquoi il est si difficile de parvenir à l'égalité de l'homme et de la femme, un principe qui semble pourtant tellement naturel. Dès lors, il n'est pas étonnant que le monde intellectuel interroge les modèles anciens de civilisation, surtout ceux dont nous sommes directement issus, pour essayer de déceler l'origine de nos propres maux. Les films à sujet mythologique ont depuis un demi-siècle véhiculé un certain nombre de clichés sur la femme antique. On va trouver pêle-mêle des déesses séductrices, arrogantes, cruelles, des femmes de rois ou de princes, lascives, soumises ou révoltées. Prenez Hélène de Sparte, elle déclenche une des guerres les plus célèbres de la littérature en quittant son mari, Ménélas, pour le beau Troyen Paris. Pénélope, c'est l'épouse modèle qui attend Ulysse en filant la laine, tout en demeurant rigoureusement fidèle pendant 20 ans. Et prenez aussi Athéna. Athéna s'illustre en frappant les guerriers troyens dans le dos pour protéger Achille. Et Déméter, ivre de douleur après la disparition de sa fille, elle prive la terre de récolte et affame les humains. Comment donc appréhender la femme antique au travers de ces entrelacs de récits aussi riches que contradictoires ? Les ouvrages que nous ont légués les auteurs de la Grèce classique ne manquent pas, mais ils ont pour caractéristique de n'avoir été écrits que par des hommes. Tous font état d'une société dans laquelle la femme est privée de tout droit juridique et civique, sans que cela ne prête aucunement à discussion. La jeune fille, parvenue à l'âge d'enfanter, est donnée en mariage selon un accord décidé entre deux familles. Son rôle sera donc de donner des enfants à son mari et de diriger sa maison en silence, dans l'ordre et dans la discipline. Point. Elle n'a aucune part dans les décisions politiques qui sont l'affaire exclusive des hommes. Si elle sort de chez elle, c'est pour se livrer à des activités en lien avec l'économie de la maison. Vendre par exemple les surplus d'huile, de fruits ou de légumes. À ce titre, elle peut manipuler l'argent. Mère au foyer, dédiée à la descendance de son mari, elle doit accepter la présence éventuelle d'une concubine et d'une courtisane. Les rôles de ces femmes se trouvent définis dans une plaidoirie célèbre dont le texte nous est parvenu in extenso. Elle concerne un certain Stéphanos, dont la concubine, une esclave, veut faire reconnaître par l'Assemblée les enfants qu'elle a eus de lui. Dans le texte très long, on trouve une mention précise des différents rôles dévolus à la femme au sein de la cité. Qu'est-ce que vivre en mariage avec une femme? C'est d'avoir d'elle des enfants. Nous prenons une courtisane pour nos plaisirs, une concubine pour recevoir d'elle les soins journaliers qu'exige notre santé. Nous prenons une épouse pour avoir des enfants légitimes et une gardienne fidèle de tout ce que contient notre maison. Il faut toutefois se garder de confondre les courtisanes avec de simples prostituées. Ces dernières pouvaient se trouver dans les maisons closes d'Athènes et n'en sortaient d'ailleurs jamais. La courtisane, elle, était relativement libre d'habiter où elle voulait. Ainsi donc, si l'on en croit ce témoignage, la jeune fille de l'époque a le choix entre le rôle de mère au foyer, celui de femme de ménage ou celui d'objet sexuel. Et pourtant, il semble que la réalité ait été un peu différente de ce que rapporte Démosthène dans la fameuse plaidoirie contre Stéphanos. Par femme au foyer, nous entendons une femme dédiée aux affaires domestiques. Mais la femme athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ ne peut en aucun cas être comparée à la ménagère présentée dans les premières pubs des années 60, dans lesquelles on voit les mères de famille passer de la vaisselle au repassage, puis de la toilette des bébés au cirage du parquet. Bon, il ne faut pas oublier que la vraie fracture sociale dans la société antique, elle n'est pas entre l'homme et la femme, mais entre le citoyen et l'esclave. Athènes, à cette époque, compte 40 000 citoyens pour 200 000 esclaves. Ces derniers ne sont pas seulement affectés aux travaux extérieurs. Ils s'occupent aussi des tâches domestiques, considérées comme viles. L'épouse athénienne n'a donc à se soucier chez elle ni du ménage, ni de l'achat de la nourriture, ni de la préparation des repas. Pas plus qu'elle n'a à s'occuper de vêtir son mari. Pour faire comprendre le sens de la vie de femme mariée, Xénophon utilise la métaphore de la ruche. Selon lui, l'épouse est comparable à la reine des abeilles. La reine des abeilles doit rester dans la ruche et ne point permettre aux abeilles de rester oisives. Celles qu'elle doit envoyer au dehors, elle les fait sortir pour l'ouvrage, voit et reçoit ce que chacune d'elles rapporte et conserve avec soin les provisions jusqu'au moment de s'en servir. De l'intérieur, elle préside à la confection des cellules, elle prend soin de la nourriture des essaims qui viennent d'éclore. Le décor est planté. La femme au foyer aura donc pour mission de diriger les travaux des esclaves tant à la maison que dans les champs. Elle aura aussi la charge de gérer les provisions, de telle sorte que ne soit pas consommé en un mois ce qui est prévu pour l'année. Son seul travail manuel sera la confection des vêtements de laine, le tissage étant une activité considérée comme noble. Prenez les vases à figures rouges ou noires qui nous sont restés de l'époque. Ils sont riches en représentations de la vie domestique. L'épouse et mère y est toujours représentée à côté du panier à laine, la main à la quenouille. Mais qu'on ne s'imagine pas que le quotidien soit pour autant ennuyeux. À Athènes, du moins au 5e siècle avant Jésus-Christ, les hommes sont presque tout le temps à la guerre. Pendant ce temps, les femmes restées seules ne suivent pas tout le modèle de Pénélope. Loin s'en faut, l'adultère est monnaie courante. À tel point que les lois athéniennes muettes, quand il s'agit de donner un nom au mariage, ont prévu une loi pour cette faute précise, l'adultère. La femme prise en flagrant délit d'adultère avec un autre homme doit être chassée avec une peine d'amende. Quant à l'amant, le mari trompé a le droit de le tuer sur le champ. Égare au mari qui voudrait garder son épouse infidèle. Il serait aussitôt déchu de sa citoyenneté. S'il est indigne pour l'épouse de passer son temps à l'extérieur, il est aussi mal vu pour un homme de rester toujours à la maison. Chaque injonction adressée à une femme est assortie d'une injonction réciproque adressée au mari. Que la femme ne s'offense donc pas d'être déléguée aux tâches les plus douces. L'homme, lui, a pour lot le métier des armes, les travaux difficiles et les disputes de l'agora. L'agora étant le lieu où se réunit l'assemblée des citoyens athéniens. Il n'est qu'à regarder la manière dont leurs corps sont constitués. Hippocrate a consacré de longues pages à la morphologie de l'homme et de la femme. Le corps de l'homme, dur, musclé, bronzé, est adapté aux travaux de force effectués au dehors. À l'inverse, si les femmes sont molles, flasques, et si leur peau est si blanche, c'est qu'elles sont faites pour l'intérieur et pour le moindre effort. La femme grecque, lorsqu'elle veut demeurer fidèle à son mari, va mettre un point d'honneur à se parer pour lui plaire. Et là, ce sera souvent en vain pour deux raisons. D'une part, parce qu'un homme amoureux de sa femme, c'est une aberration. Qu'il aime sa concubine, pas son corps, mais la mère de ses enfants, enfin c'est absurde. Un tel homme serait vite la risée de l'agora. D'autant que les artifices déployés par sa femme pour le séduire sont souvent outranciers. Le visage couvert de céruse, cette pommade blanche, les pommettes et les lèvres peintes d'un rouge criard, les yeux entourés de noir attirent les sarcasmes sans convaincre le principal intéressé. Il se trouve même des textes pour conseiller aux femmes d'abandonner ces pratiques inutiles. « Eh bien, pour ce qui est de moi, sois assurée, femme, que je ne préfère ni la céruse, ni le rouge à ton teint naturel. De même que les dieux ont fait les chevaux pour plaire aux chevaux, les bœufs pour plaire aux bœufs, les brebis aux brebis. De même, ils ont voulu que le corps tout simple de l'homme fût agréable à l'homme. » Cette agréable suite de comparaisons développée devant Socrate lui-même par un mari prévenant a dû convaincre son épouse. Il affirme qu'elle se mit dès lors à éviter de rester assise devant son métier à tisser, préférant pétrir le pain, battre les couvertures, faire des allées et venues à l'intérieur de la maison, et que son teint s'en trouva ravivé sans artifice aucun. Autrement dit, mesdames, pour rester jeune et le teint frais, faites donc un petit peu de ménage. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire, consacré aux femmes dans la Grèce antique.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Le texte est de Jean-Louis Bachelet. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Misogynie et féminisme chez Aristophane et chez Euripide. Par Jacqueline Assael, Palace numéro 32, 1985. La vie quotidienne des femmes à Athènes. À propos de vases attiques du 5e siècle, par Hélène Guiraud, Palace numéro 32, 1985. Les Spartiates, ces femmes auxquelles le sport a ôté toute morale. Étude sur un stéréotype du théâtre athénien de la guerre du Péloponnèse par Flavien Villard, édition de la Sorbonne, 2018. L'Assemblée des femmes, par Aristophane, traduit par Eugène Talbot. Économique, par Xénophon, traduit par Eugène Talbot. Idéaux féminins, le cas de la Grèce ancienne, par Françoise Frontissi-Ducroux, L'Esprit du temps, topic numéro 82, 2003.